en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Le lundi 9 février 2009, dans les salons de l'Institut de France, le président Valéry Giscard d'Estaing remettait à Raymond Boudon le prix Tocqueville 2008 en présence de nombreux académiciens. Le prix Tocqueville a été créé en 1979 pour rendre hommage et faire rayonner la pensée d'Alexis de Tocqueville, lequel avait été élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1838, puis à l'Académie française en 1841. Tocqueville, on le sait, est l'auteur d'un ouvrage fondamental en sociologie et pour la réflexion politique de la démocratie en Amérique, paru entre 1835 et 1840, ouvrage qui lui valut une immense notoriété. Le président Giscard d'Estaing, lui-même membre de l'Académie française, préside le jury du prix Tocqueville, un jury dont le tout premier lauréat fut Raymond Aron. Et pour l'année 2008, c'est le sociologue Raymond Boudon de l'Académie des sciences morales et politiques qui en a été le lauréat. La remise de ce prix se fait généralement dans le département de la Manche, département dont Tocqueville était député et président du Conseil général, et quelquefois au château de Tocqueville, dont le bureau de l'écrivain est resté intact. Mais après avoir été déclaré à Saint-Lô, le prix a été remis cette année dans les salons de l'Institut de France. Les discours, vous allez l'entendre, invitent à une réflexion profonde sur le libéralisme et la démocratie. Dans cette émission, vous entendrez donc successivement le chancelier Gabriel de Breuil prononcer quelques mots de bienvenue, puis le discours du président Giscard d'Estaing, et enfin la réponse de Raymond Boudon.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, cher ami Raymond Boudon, nous sommes aujourd'hui réunis à l'initiative de Monsieur le Président Giscard d'Estaing pour rendre hommage à notre confrère Raymond Boudon, couronné l'an passé par le prix Tocqueville. Je remercie le Président Valéry Giscard d'Estaing, président du jury du prix Tocqueville, pour cette initiative qui permet au plus grand nombre, ses proches, ses amis, ses collègues, ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques, de nous associer à la récompense prestigieuse de Raymond Boudon. Raymond Boudon est le 13e lauréat d'un prix qui comprend des noms illustres tels Raymond Aron, premier lauréat, Octavio Paz, François Furet, ou encore le sociologue Michel Crozier. Les deux derniers lauréats ont été le philosophe et géopolitiste, si on dit cela, mais j'imagine que les universitaires doivent dire géopolitiste, Kerasner, et l'ancien secrétaire d'État américain Colin Powell. En créant en 1979 le prix Tocqueville, Pierre Godefroy, alors député de Valognes, Pierre Aguiton, à cette époque président du Conseil régional, et notre confrère Alain Perfitte, Monsieur le Président, qui a été le premier président du jury, ont voulu rendre hommage à l'action d'Alexis de Tocqueville et faire rayonner sa pensée, mieux connue peut-être aux États-Unis qu'en France. Le prix, attribué alternativement à un étranger et à un Français, d'habitude remis à Valognes ou au château de Tocqueville, l'a été pour la dernière fois en 2008 au Conseil général de la Manche. Alexis de Tocqueville ne fit pas que résider au château de Tocqueville, où il rédigeait une partie de son ouvrage de la démocratie en Amérique. Il y fut aussi un homme politique, aux mandats locaux et nationaux, un moment président du Conseil général de la Manche, député du département, avant de devenir ministre des Affaires étrangères. Placé sous ce prestigieux patronage, le prix s'élève à un très haut niveau des récompenses intellectuelles. Au fil des décennies, et grâce à des travaux récents et très savants, la pensée d'Alexis de Tocqueville acquiert maintenant un rayonnement très vaste. Non seulement à cause de la démocratie, aux États-Unis d'Amérique décrite par Tocqueville après son voyage, mais également en France maintenant, à laquelle Tocqueville d'ailleurs ne cessait de songer en rédigeant son grand ouvrage et en méditant sans doute sur l'Ancien Régime et la Révolution. Et donc le prix Tocqueville aujourd'hui s'appuie sur cette renommée et s'établit tout naturellement à un niveau d'excellence remarquable. Et il consacre cette année l'œuvre d'un Français, d'un penseur libéral, de notre confrère Raymond Boudon. L'Institut de France éprouve donc beaucoup de fierté à l'hommage que le président Valéry Giscard d'Estaing va maintenant lui rendre.
Après le chancelier de Breuil, voici le discours du président Valéry Giscard d'Estaing.
La tradition, comme vient de le rappeler le chancelier de l'Institut, la tradition voulait que le prix Tocqueville soit remis à son lauréat dans le département de la Manche, tantôt à Valognes, tantôt au château de Tocqueville. Et pour vous, monsieur Boudon, les organisateurs du prix avaient choisi la ville de Saint-Lô, siège du Conseil général, dont Alexis de Tocqueville fut le président. J'aurais voulu venir à Saint-Lô vous remettre ce prix. Mais une impossibilité pratique de caractère européen m'en a empêché. Aussi, Madame Stéphanie d'Hérouville de Tocqueville, que nous apercevons et à laquelle j'offrirai volontiers un siège, présidente de l'association, et le sénateur Jean-François Legrand, président du Conseil général de la Manche, ont-ils organisé cette cérémonie. Après cette cérémonie dans la Manche, comme vous l'avez dit, monsieur le chancelier, il était souhaitable qu'un membre aussi éminent de l'Académie des sciences morales et politiques soit honoré dans sa maison. C'est aussi pour moi l'occasion de répondre à deux questions, de répondre brièvement à deux questions. Pourquoi un prix Tocqueville à notre époque et pourquoi le jury représenté ici a-t-il fait le choix de son lauréat en la personne de Raymond Boudon? En fait, les réponses à ces deux questions finalement convergent. Car parmi vos recherches, vous avez privilégié un certain nombre de thèmes ou de sujets sur lesquels Tocqueville s'était lui-même penché. Et on retrouve une continuité intéressante et très créatrice entre ce que Tocqueville a pu écrire à différentes phases de sa vie, premier voyage en Amérique, deuxième voyage en Amérique, et ce que vous avez écrit vous-même. Vous avez notamment tenté d'identifier les causes d'un phénomène très surprenant, qui nous est familier, qui à mes yeux borde d'ailleurs le ridicule, et qui est l'agitation qui secoue régulièrement notre pays, et qu'on appelle le pouvoir de la rue. Une expression d'ailleurs intraduisible en anglais ou en allemand pour la simple raison qu'il n'en aurait pas l'usage. Plutôt que dans les écrits de nos contemporains, qui naturellement ont abondamment commenté ce type d'événement, c'est dans la lecture de l'Ancien Régime et la Révolution que vous avez trouvé les meilleures réponses, ce qui prouve, s'il en était besoin, l'actualité des analyses d'Alexis de Tocqueville. Notre auteur y décrit en effet le culte français pour la centralisation, phénomène très curieux et dont les excellents ouvrages historiques qui paraissent actuellement sur différents siècles de notre histoire retrouvent et reproduisent d'ailleurs le fil. Une centralisation qui a traversé toutes les époques, de Charles VII à Louis XI et Louis XIII, le jeune Louis XIII et son Premier ministre, jusqu'à la Ve République, en passant par Louis XIV, la République, l'Empire, la Restauration et Napoléon III. Et c'est la centralisation qui génère en quelque sorte les grandes manifestations qui attestent l'existence du pouvoir de la rue. Les organisations locales qui prévalaient au Moyen-Âge dans notre pays et auxquelles Tocqueville donne un très joli nom, il les appelle l'ancienne constitution de l'Europe. Ces organisations locales ont été balayées par le centralisme. La Révolution n'a rien bouleversé dans ses principes, elle s'est contentée d'en changer les acteurs. Et aujourd'hui, comme sous Napoléon III, c'est tout naturellement vers le sommet du pouvoir que se tournent les contestataires. Un déferlement de revendications diffuses et multiples, c'est moins l'obtention d'un droit ou d'un avantage qu'ils réclament que l'expression en réalité de leur volonté d'affaiblir le pouvoir lui-même. L'exécutif est paralysé dès qu'il envisage d'entreprendre la moindre réforme par tous ceux qui, au gré de motivations diverses, se coalisent pour essayer de le rendre incapable d'agir. Le pouvoir, apparemment fort, se trouve affaibli parce qu'il est la cible unique en France de tous les mécontentements. Alors s'opposent deux forces, apparemment contradictoires, mais qui se nourrissent chacune de l'autre. D'un côté, la rue, dominée par ceux qui en appellent au relativisme, c'est-à-dire au refus du rationnel et de l'objectivité, et de l'autre, ceux qui s'appuient sur un réseau de règles et de structures pour affronter les menaces du chaos. À ce type de conflit que vous avez si brillamment étudié, Tocqueville oppose la démocratie américaine issue de la Constitution de Philadelphie. Et disons en passage que la survie presque intacte de cette Constitution est un des phénomènes historiques les plus forts et les plus respectables auxquels nous pouvons assister jusque dans ces derniers développements. Un exécutif limité par le principe de l'équilibre des pouvoirs, un Congrès puissant et respecté et qui exerce ses attributions jusque ces jours-ci, des milliers d'associations locales au sein desquelles s'expriment la véritable liberté démocratique. Dans son deuxième ouvrage, « De la démocratie en Amérique », Tocqueville oppose la centralisation gouvernementale telle qu'il l'aperçoit aux États-Unis et telle que les Européens la redoutent, en fait, à la centralisation administrative telle qu'ils la voient en France et que les Français acceptent. Les avantages politiques que les Américains retirent de la décentralisation administrative, qui est presque complète, écrit-il, me font préférer ce système à son contraire. Pour Tocqueville, les Américains ont suivi l'exemple des Britanniques, les pouvoirs royaux et aristocratiques en moins. L'Angleterre, en effet, très curieusement, et les habitants de la Manche connaissent ce voisinage, n'a pas de centralisation administrative. Mais elle a une très forte centralisation gouvernementale qui est portée à un haut degré. L'État semble se mouvoir comme un seul homme, écrit Tocqueville. Tocqueville est un aristocrate de son temps, qui, comme ses prédécesseurs, Montesquieu ou Chateaubriand, admire le système démocratique que les Britanniques ont inventé. Toutes les composantes de la société y sont à l'aise. Même le gentilhomme y est considéré comme un personnage utile et respecté, tandis que l'aristocrate français est perçu comme un parasite inutile dans la société politique du XIXe siècle. Raymond Boudon combat ainsi les idéologies aujourd'hui dominantes qui affirment, et je le cite, que l'objectivité serait un leurre, d'où il suit qu'il n'y aurait à proprement parler de savoir ou de connaissance, mais seulement des points de vue, pas de faits, mais seulement des interprétations. Dans une société, la nôtre, où l'égalité est la passion dominante, on indique, on ressent que toutes les opinions sont également dignes d'être défendues. Il n'y a pas de différence de compétence entre les individus, plus d'analyse objective des causes ou des conséquences. C'est alors le triomphe du narcissisme et la tyrannie de l'affirmation qui débouche sur le mal moderne de la pensée unique et la gloire du tout médiatique. Raymond Boudon a bien mérité ce prix Tocqueville, car son analyse des dérives de notre temps rejoint les préoccupations qu'exprimait déjà le député de la Manche. Aussi, permettez-moi en conclusion de dialoguer un instant avec lui, car j'admire beaucoup ses recherches et je serais heureux de lui poser quelques questions. Vous nous avez dit dans votre discours de Saint-Lô, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, qu'après Tocqueville, le grand sociologue allemand Max Weber avait développé une théorie selon laquelle, dans le court et le moyen terme, la vie politique des sociétés démocratiques paraît inspirée par un irréductible polythéisme des valeurs, et donc conflictuel. Mais dans le long terme, l'évolution des idées, des institutions, voire des mœurs, est soumise à un processus de rationalisation diffuse qui tend à sélectionner les meilleures idées, les meilleures institutions et les meilleures pratiques, vu extrêmement optimiste. La difficulté est encore une fois que bien des idées sont supérieures à d'autres, du point de vue des principes qui les inspirent, mais qu'elles sont incertaines du point de vue des résultats qu'elles procurent. Cela crée une tension entre l'éthique de conviction, qui repose sur la qualité des idées, et l'éthique de responsabilité, tension qui confère à l'histoire une dimension inévitablement conflictuelle. C'est surtout ce dernier point de l'œuvre de Max Weber qui devait retenir l'attention de Raymond Aron, premier titulaire du prix Tocqueville. Il n'est pas difficile d'appliquer la théorie de l'évolution sociale et politique qui se précise de Tocqueville à Weber à des exemples récents ou contemporains. Par exemple, c'est à la suite de longs conflits que le droit de vote a été progressivement étendu à tous les citoyens et aux femmes, que le droit de grève a été instauré, que la peine de mort a été abolie dans des nations de plus en plus nombreuses, que le principe de la séparation des pouvoirs a été affirmé, ou qu'on assiste aujourd'hui au balbutiement prometteur d'une future justice internationale. Ces évolutions se sont produites dans un contexte d'affrontement du court et du moyen terme. Sur le long terme, nous observons qu'elles tendent à devenir irréversibles. Une découverte majeure de Tocqueville et de Weber est d'avoir montré que, par-delà le bruit et je dirais même la fureur de l'histoire, on discerne un processus de rationalisation de la vie morale, sociale et politique dans les sociétés démocratiques. Mais ils ont bien vu aussi que ce processus était en butte à des forces adverses. Alors, les interrogations que je me pose sont les suivantes. Cette sélection des meilleures idées, des meilleures institutions et des meilleures pratiques qui constituent, selon Max Weber et vous-même, une sorte d'horizon naturel pour l'évolution démocratique lorsqu'elle sort de ses tensions conflictuelles. Cette sélection, qui la réalise? Où se forme-t-elle dans la société d'aujourd'hui? Qui élabore ce corpus des meilleures idées que le temps finirait par imposer, selon vous, à toute évolution démocratique? Votre analyse n'est-elle pas un modèle tiré de la société post-aristocratique et bourgeoise de la période 1850-1950, où les structures sociales et culturelles, encore solides, fournissaient en effet un modèle type à la future évolution démocratique? Est-ce que cette analyse tient compte des nouvelles données dites incontournables? Les intègre-t-elle dans son corpus des meilleures idées? Et je citerai quelques-unes de ces données. La poussée démographique, notamment depuis le début du XXe siècle, a bouleversé les équilibres, notamment en Chine et en Inde. La fin de la domination WASP, White Anglo-Saxon Protestant, enfin les blancs anglo-saxons protestants, aux États-Unis, attestée par l'élection de Barack Obama. L'apparition de la société de communication immédiate, qui ne laisse plus d'espace de temps à la réflexion et à la critique. Le fait que la pensée interrogative s'est extraite du corps social, où elle est remplacée par la recherche de la satisfaction du besoin individuel. Le fait aussi que les grands écarts de ressources entre les individus sont mieux acceptés lorsqu'ils proviennent du hasard, tirage du loto, que lorsqu'ils sont le fruit du travail et de la créativité économique. L'abstention croissante des citoyens dans certains types d'élections, l'affaiblissement de la notion du pouvoir délégué, qui était un substratum du pouvoir démocratique au XIXe siècle, et j'irais jusqu'à la guerre de 1914 en France, où on pensait être représenté par quelqu'un, alors que maintenant on souhaite simplement que ce quelqu'un dise ce que vous pensez ou ce que vous demandez. Et enfin, phénomène très important, la relation entre l'élection et la corruption dans beaucoup de sociétés démocratiques. Alors, quand on note ces nouvelles données, quel serait le meilleur modèle au sens de Weber aujourd'hui? Les protagonistes de ce type de pensée vous répondraient une démocratie élective au sein d'une société multiraciale, avec comme modèle le Brésil ou l'Amérique d'Obama. C'est la réponse de la pensée unique. Est-il universellement acceptable comme terme de l'évolution démocratique? Serait-il le résultat naturel de ce que j'appellerais l'entropie démocratique? J'en suis pas, pour ma part, persuadé, car il y a des obstacles à ce schéma de Max Weber. D'abord, il est inapplicable en Chine, c'est-à-dire dans la première puissance du monde par sa population. Il se trouve en conflit avec le besoin croissant d'identité qui se manifeste, par exemple, dans les réponses négatives à différents référendums dans l'Union européenne. Sa vulnérabilité à l'égard des petits groupes fortement structurés, qui est d'ailleurs un autre de vos thèmes d'étude, et dont on voit la présence agissante dans nos sociétés actuelles, les lobbies et les mafias. C'est pourquoi je pense qu'il y a intérêt à élargir la vue des systèmes possibles et s'interroger sur l'avenue, dans l'avenir, de formules alternatives. Le despotisme éclairé, limité dans sa durée, le tirage au sort pour les fonctions représentatives, l'effacement progressif du pouvoir politique de gouvernements inutiles, comme par exemple la Belgique et l'Autriche. C'est autour de ces idées que tâtonne à l'heure actuelle la recherche dans un certain nombre de pays, par exemple. C'est autour de ce schéma, c'est-à-dire d'un modèle confucéen de despotisme éclairé à échéance de renouvellement, que tâtonne la recherche d'organisation politique de la Chine. Et le tirage au sort, pour certaines fonctions représentatives, nous amène à la question suivante. Un jury vaut-il mieux ou moins bien qu'un conseil? Et nous retrouvons les interrogations de la Grèce antique. Ce ne sont pas des pistes que je vous propose de suivre, mon cher Raymond Boudon. Ce ne sont même pas des questions que je vous pose. Ce sont seulement des invitations que je vous lance à poursuivre vos recherches, tellement celles-ci nous sont précieuses, en nous aidant, comme le fit Alexis de Tocqueville, à sortir de la pensée unique, non sur le côté par des combats latéraux, mais vers l'avant. Je vous remercie.
Après le président Giscard d'Estaing, voici la réponse prononcée par le lauréat du prix Tocqueville 2008, le sociologue Raymond Boudon.
Monsieur le Président, vous m'avez posé des questions, en même temps vous m'avez dit que vous ne les aviez pas posées, je ne voudrais pas botter en touche, mais je citerai un autre sociologue allemand, pas Max Weber cette fois-ci, mais Georg Simmel, qui a dit dans un texte d'une profondeur, je crois, très grande, « De tout temps, on a cru que le présent était parfaitement nouveau par rapport au passé, et de tout temps, cela était faux. » C'est pourquoi je voudrais essayer de défendre mes auteurs favoris dans la réponse que je vous ferai maintenant, mais en disant d'abord que recevoir le prix Tocqueville, c'est pour moi une grande joie et un grand honneur, non seulement parce que je m'inscris ainsi dans une lignée de lauréats prestigieux, mais parce que c'est pour moi l'occasion de célébrer la mémoire de l'une des trois très grandes figures des sciences sociales qui, avec Durkheim et Max Weber, ont accompagné toute ma vie professionnelle. Vous avez cité l'Ancien Régime et la Révolution. J'ai été aussi toujours très impressionné par la seconde démocratie en Amérique, celle de 1840, un chef-d'œuvre qui représente une étape majeure dans un flux de recherche important et continu, toujours bien vivant aujourd'hui. Un superbe aphorisme des souvenirs de Tocqueville résume admirablement la thèse principale de sa seconde démocratie. L'avenir, juge éclairé et impartial, mais qui arrive hélas, toujours trop tard. Cet aphorisme signifie que dans les sociétés démocratiques, l'avenir tend à ne retenir des soubresauts du passé, du mouvement vibrionnant qui affecte la vie des institutions et des idées, que ce qu'en approuverait un juge éclairé et impartial. Un peu comme l'histoire des sciences est peuplée sur le court et le moyen terme de querelles inexpiables entre savants, mais ne retient sur le long terme que les théories les plus solides, le court et le moyen terme moral, social et politique, et je crois que cela reste vrai, sont eux aussi faits de dissensions et de conflits. C'est seulement dans le long terme que la main invisible du juge éclairé et impartial consent à se manifester. Lorsque Tocqueville affirme, avec une fierté non dissimulée, qu'il est l'inventeur d'une science politique nouvelle, il a en tête une science qui soit capable de déchiffrer les tendances sous-jacentes aux aléas du court terme, mais aussi d'échapper au subjectivisme, celui d'un Guizot ou celui, tout différent bien sûr, d'un Michelet. C'est encore parce qu'il était habité par la conviction que résume sa métaphore du juge éclairé et impartial que le député de la Manche qu'il fut a livré avec constance deux combats politiques. L'un pour l'abolition de l'esclavage sur les terres de souveraineté française, l'autre pour l'adoption du suffrage universel, bien qu'il mesurât pleinement les risques qu'il comportait. 10 ans après la publication de la seconde démocratie, il a sans doute vu une justification de ses appréhensions dans l'approbation par l'électorat du coup d'État du 2 décembre qu'il avait désapprouvé et qui avait provoqué son retrait de la vie politique. D'où lui venait, malgré tout, sa conviction que le suffrage universel était appelé à se généraliser. Tout simplement de ce qu'il découle du principe de l'égale dignité de tous les hommes, indépendamment de leur qualité et de leur mérite. Le moteur de l'histoire réside donc, selon Tocqueville, plutôt dans les idées des hommes que dans leurs intérêts matériels, contrairement à ce que soutiendra Karl Marx, son cadet d'une dizaine d'années. Certaines idées sont supérieures à d'autres, à la fois du point de vue des principes qui les inspirent et des effets qu'on peut en attendre. D'autres sont bonnes du point de vue des principes et incertaines s'agissant des effets. Mais lorsqu'une idée est préférable à une autre du point de vue des principes, elle tente à être sélectionnée. C'est pourquoi Tocqueville a décrit l'évolution des idées et des institutions dans les démocraties modernes comme guidées par la providence. Mais comme il était agnostique, la providence n'était dans son esprit qu'une métaphore désignant l'effet composite des jugements individuels des hommes. Et c'est la réponse à l'une de vos questions, Monsieur le Président. Signifie que sur le long terme, c'est l'opinion publique qui est le moteur même de l'évolution morale, sociale et politique, bien qu'elle puisse se révéler tyrannique sur le court et le moyen terme. Mais Tocqueville est parfaitement conscient aussi du fait que l'action de la providence est toujours menacée par des forces adverses. Il n'y a pas, selon lui, de déterminisme historique. L'absence de déterminisme lui paraît même vitale, car c'est elle qui confère tout son sens et toute sa noblesse à l'action politique, en lui confiant le soin de combattre les forces qui retardent les arrêts du juge éclairé et impartial. Après Tocqueville, vous l'avez dit, le grand sociologue allemand a développé une théorie proche de la sienne en la précisant, je cite, « Ce ne sont pas les intérêts réels ou supposés qui guide l'action des hommes, mais bien les idées », déclare-t-il. Et lui aussi fait une distinction entre le court et le moyen terme, vous l'avez dit, et le long terme, et relie ces notions avec l'opposition très célèbre entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction, contradiction qui ne peut pas être supprimée. L'une des découvertes majeures, je crois, qui reste valable de notre temps, de Tocqueville et de Weber, et donc d'avoir montré que par-delà le bruit et la fureur de l'histoire, on observe bien un processus de rationalisation. Mais ils ont bien vu aussi l'un et l'autre qu'à ce processus s'opposent non seulement des aléas, non seulement des données conjoncturelles, non seulement des faits nouveaux, comme ceux que vous avez cités, mais aussi des forces structurelles. Et je prendrai un seul exemple. L'une de ces forces structurelles a été découverte est qualifié par Roberto Michels, un disciple de Max Weber, de loi des reins de l'oligarchie. Cette idée a été inspirée à Michels par son expérience directe des syndicats et des partis sociaux-démocrates italiens et allemands. Ils affichaient en toute bonne foi une éthique démocratique, mais leur pratique se présentait comme oligarchique. Leurs équipes dirigeantes parvenaient en effet régulièrement à imposer à leurs sympathisants des politiques que ceux-ci récusaient. Roberto Michels constate que cette tendance à l'oligarchie n'affecte pas seulement les syndicats et les partis, mais les démocraties dans leur ensemble. Et il la qualifie pour cette raison de loi. Mais malgré tous ces efforts qui furent intenses, il ne parvint pas à en expliquer les raisons d'être. C'est finalement un économiste et sociologue de notre temps, l'Américain Mansur Olson, qui a identifié le mécanisme fondamental responsable des menaces oligarchiques qui pèsent sur toute démocratie. Lorsqu'un petit groupe organisé cherche à imposer ses vues à un grand groupe non organisé, explique-t-il, il a des chances de ne rencontrer que peu de résistance, car chacun des membres du grand groupe sait qu'il recueillait les fruits de la résistance, même s'il n'y participe pas. Il a donc tendance à se comporter en passager clandestin, c'est-à-dire à compter sur autrui, pour exercer des pressions visant à contrer le petit groupe organisé. Il s'ensuit qu'une action collective du grand groupe contre le petit a de fortes chances de ne pas se produire. Ce mécanisme fondamental explique toutes sortes de choses. Il explique que l'appareil d'un parti puisse imposer à ses sympathisants une politique contraire à ses vœux. Il explique aussi qu'un gouvernement puisse accorder davantage d'attention aux exigences des corporations et des groupes d'influence qu'aux demandes du public et à l'intérêt général. Conséquence de ce mécanisme, un gouvernement démocratique qui ne peut pas compter sur l'autorité d'un Parlement respecté par l'opinion est particulièrement exposé à ce risque, car il se retrouve seul face aux corporations et aux groupes d'influence. Le mécanisme mis en évidence par Olson explique aussi la persistance des phénomènes idéologiques dans les sociétés démocratiques. Pourquoi, pour évoquer un thème d'actualité, a-t-on pu si longtemps infliger aux élèves français la grammaire structurale, la méthode de lecture globale ou une pédagogie d'inspiration rousseauiste, alors qu'on avait pu très vite observer que ces mesures étaient contre-productives? Pourquoi a-t-on pu imposer dans les manuels destinés à l'enseignement secondaire, comme l'a montré François Furet, une histoire largement mythique de la Révolution française? Pourquoi a-t-on si longtemps en France divinisé l'État et diabolisé l'entreprise? D'où provient, Monsieur le Président, l'idée reçue selon laquelle la gauche aurait le monopole du cœur? Toutes ces idées ont été lancées par des réseaux de connivence et d'affinité. Seule une fraction du public y adhère, mais en vertu de l'effet Olson, le public dans son ensemble n'a pas la volonté de s'y opposer. C'est pourquoi des idées fausses peuvent s'installer pour un temps toujours trop long. C'est pourquoi l'on voit apparaître le phénomène mystérieux dit de la pensée unique, du politiquement correct, voire, dans les nations de tradition centralisatrice surtout, du terrorisme intellectuel. C'est l'une des raisons, enfin, pour lesquelles l'avenir arrive, hélas, toujours trop tard. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, les quelques théories tirées des sommets des sciences sociales que je viens d'évoquer permettent d'abord d'opposer un optimisme bien tempéré au pessimisme qui s'affiche volontiers aujourd'hui sur l'évolution des démocraties. En même temps, elles identifient certains des risques majeurs auxquels celles-ci sont exposées, et notamment ces risques, ceux qui résultent de l'impuissance du public face aux corporations et aux groupes d'influence. Et elles définissent le sens de l'action politique anticipée sur les jugements du juge éclairé et impartial. Ces théories montrent encore que les sciences sociales peuvent contribuer efficacement à la compréhension des phénomènes politiques et sociaux et par suite servir la vie démocratique, dès lors qu'elles acceptent de se conformer aux règles des autres sciences, comme le souhaitait Karl Popper, un lauréat de prix Tocqueville. De Montesquieu à Olson, en passant par Tocqueville et Max Weber, on observe bien une continuité, un approfondissement, une efficacité explicative, voire prédictive, et une cumulativité des théories élaborées par les sciences sociales et politiques d'inspiration scientifique. J'ai moi-même constamment tenté, à mon niveau, de suivre le modèle proposé par ces figures exemplaires. Cela m'a notamment conduit, dans les dernières années, à entamer des travaux sur les sentiments moraux, les sentiments de justice, les normes et les valeurs. Ils montrent, vous l'avez dit, que le public est loin d'adhérer au relativisme en faveur auprès des élites, à la doctrine qui tente à placer toutes les idées, toutes les productions de l'esprit et finalement toutes les cultures sur le même plan. L'ascendant du relativisme auprès des élites me paraît avoir des effets redoutables. Il explique le sentiment de perte des repères qui caractérise la vie intellectuelle, sociale et politique, voire artistique, des démocraties contemporaines. L'un des compositeurs les plus célèbres de notre temps n'a-t-il pas déclaré publiquement, dans un entretien qui a fait le tour des rédactions du monde entier, que les attentats du 11 septembre étaient la plus grande œuvre d'art qui ait jamais été conçue ? Sur un sujet beaucoup plus ponctuel, mais qui engage lourdement l'avenir, l'influence du relativisme explique un fait préoccupant identifié par deux rapports récents, rédigés l'un à la demande du ministre de l'Éducation nationale en exercice, notre confrère Xavier Darcos, l'autre à l'initiative de l'Académie des sciences morales et politiques. Selon ces rapports, les manuels français de sciences économiques et sociales donnent l'impression de mettre sous les yeux du jeune citoyen moins le savoir solide que ces disciplines ont accumulé au cours du temps qu'un catalogue d'opinions. Cela est d'autant plus regrettable que les sciences économiques et sociales sont devenues, dans les démocraties d'aujourd'hui, à côté des humanités et des sciences de la nature, le troisième pilier de la culture générale. Merci.
Vous venez d'entendre l'enregistrement par Canal Académie de la cérémonie de la remise du prix Tocqueville 2008 à Raymond Boudon.